Il est 13h, temps universel. Bienvenue si vous nous rejoignez 8h à Port-au-Prince. Bonjour. RFI Midi, la suite sur le continent américain avec une institution sanitaire partie en fumée à Haïti, l'hôpital Bernard Meuse de Port-au-Prince, incendié par des membres des gangs. C'était dans la nuit de lundi à mardi, un gros coup dur pour le secteur médical et les patients aussi.
Association médicale haïtienne.
Nous, membres de l'association médicale haïtienne, ne pouvons plus supporter cette situation. Elle est terrible pour la population. Un pays ne peut pas fonctionner de cette manière. C'est comme si Haïti était livré à lui-même sans autorité.
C'est comme si pays a pas gain autorité là-dedans.
On ira aussi au Pérou, l'un des principaux pays d'accueil pour les Vénézuéliens qui ont quitté le pays ces dernières années sur fond de crise. Et pour eux, le mal du pays, vous l'entendrez, a tendance à ressurgir à l'approche des fêtes de Noël. Et puis rendez-vous à suivre avec nos confrères d'Outre-mer Première. Avec vous, Benoît Ferrand, à la une.
À la une, la journée internationale des migrants, c'est aujourd'hui l'occasion pour la CIMAD de Guadeloupe d'accuser la préfecture de, entre guillemets, faire du zèle. C'est ce que nous dira tout à l'heure notre consoeur Peggy Robert.
Benoît Ferrand, à tout à l'heure. Et d'abord le journal. Avec vous, Gilles Moreau, et avec l'aide qui s'organise en faveur de Mayotte, dévastée par un cyclone.
Oui, quelques 120 tonnes de nourriture arrivées par avion depuis l'île de la Réunion devaient être distribuées aujourd'hui à Mayotte. Menacée de pénurie, la population est aussi exposée au risque d'épidémie, 4 jours après le passage du cyclone. Les dégâts sont absolument colossaux, a déclaré ce matin le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui s'est rendu à Mamoudzou devant les journalistes. Il s'est refusé à établir un bilan précis en vie humaine, on l'écoute.
Non, ça ne sert à rien. Les 22 morts que je peux vous donner, qui sont le bilan tel qu'on me l'a rapporté, 45 blessés graves, les 1300 et quelques blessés plus légers, c'est un bilan provisoire. Ce que je peux vous dire, et ce que je crains d'ailleurs, c'est que le bilan soit lourd, que ce bilan soit bien trop lourd. Je ne donnerai aucun chiffre parce que je ne sais pas. Je ne sais pas.
Bruno Retailleau ce matin sur BFM TV. Olivier Sherman, bonjour.
Bonjour.
22 morts, 1373 blessés selon un bilan officiel provisoire. Les autorités redoutent en réalité jusqu'à des milliers de morts. Alors Olivier, comment expliquer ce bilan qui paraît faible?
Alors déjà, il faut savoir que près de 40% de la population de Mayotte vivait dans des logements fragiles, souvent construits en tôle ou en matériaux légers. Ces habitations ont été soufflées, balayées avec les rafales de vent atteignant jusqu'à 230 km/h, il ne reste plus rien de ces logements. De nombreuses personnes pourraient être piégées sous les débris. Ensuite, il faut accéder aux zones touchées. Tout l'archipel a été dévasté. Toutes les infrastructures ont été gravement endommagées, comme les ponts ou les routes, rendant l'accès aux zones sinistrées difficile pour les équipes de secours. Cela complique grandement l'évaluation des pertes humaines. Troisièmement, la communauté musulmane de Mayotte suit les traditions qui exigent que les défunts soient enterrés rapidement, dans les 24 heures après le décès. Cela peut rendre encore plus difficile la comptabilisation des victimes, car les corps pourraient être enterrés avant qu'ils ne soient recensés par les autorités. Enfin, il y avait 100 000 clandestins, selon certaines sources, sur l'archipel. De peur d'être contrôlés, ils n'ont pas rejoint avant le départ du cyclone les centres d'hébergement. Leur nombre étant incertain, il est donc impossible de connaître le nombre de clandestins décédés s'ils ont déjà été enterrés.
Olivier Sherman, merci. Sachez encore à propos de Mayotte que le président Macron sera sur place demain.
Et d'ici là, émission spéciale à suivre sur RFI. Ce sera tout à l'heure à partir de 18h10, heure de Paris, avec nos confrères de La Première. 10 jours après la chute du régime, les combats continuent dans le nord de la Syrie.
Oui, ennemis des Kurdes. La Turquie soutient l'offensive de l'armée nationale syrienne qui maintenant contrôle la ville de Manbij. On évoque à présent une attaque d'ampleur. Elle serait lancée avec HTS, le groupe rebelle islamiste à la tête de l'offensive qui a fait chuter la dictature syrienne. Écoutez à ce propos Abu Nadim, chef d'une des factions de l'armée nationale syrienne. Il est au micro de Manon Chaplin.
Nous n'avons aucun problème avec les Kurdes car il reste des Syriens. Notre problème, c'est le Parti des travailleurs du Kurdistan et les unités de protection du peuple que nous considérons comme terroristes qui menacent le peuple au quotidien. Ils pillent les ressources de notre pays, volent notre pétrole. Nous voulons libérer la Syrie de ces groupes. Les Kurdes n'ont pas à s'inquiéter. Sous notre contrôle, ils seront traités comme n'importe quel Syrien, qu'ils soient alaouites, druzes ou musulmans sunnites. Ils n'auront aucun problème. Nous nous préparons préparons pour une bataille très prochainement. Nous allons attaquer de plusieurs côtés en même temps. L'armée nationale syrienne va partir depuis Manbij pour se diriger vers l'Euphrate. HTS va ouvrir un autre front plus au sud. Nous travaillons pour cela en collaboration avec HTS. Ce sont nos frères, bien sûr. Nos chefs se sont entretenus dernièrement. Ils se sont mis d'accord afin de créer à l'avenir une seule et même autorité. Nous, les combattants, n'avons aucun problème avec cela. Notre objectif à la fin est d'obtenir une seule et même autorité en Syrie. Nous devons tous donner du nôtre.
Le chef d'une des factions de l'armée nationale syrienne.
Aux Philippines, à Manille, pardon, un retour très attendu.
Oui, celui d'une jeune femme qui vient de passer 14 ans dans les prisons d'Indonésie en échappant de justesse à la peine de mort pour trafic de drogue. Elle dit avoir été trompée par ses recruteurs et ne pas avoir su qu'elle transportait de l'héroïne dans sa valise alors qu'elle partait comme travailleuse domestique. Après une décennie de batailles judiciaires entre l'Indonésie et les Philippines, la jeune femme est de retour à Manille. Elle a été transférée dans un centre pénitentiaire pour femmes. La question est de savoir combien de temps elle y restera.
À travers les barbelés, Mary Jane salue les caméras. Entourée de gardes, elle retrouve sa famille. Elle embrasse ses parents et ses deux fils qu'elle n'a pas vus depuis 14 ans. Et puis, elle repart aussitôt en cellule. Célia Veloso et sa mère, très émue, elle a un message pour le président du pays, Ferdinand Marcos Jr.
Mon message est que j'espère qu'elle ne passera pas trop de temps en prison. Marcos, donnez-lui la liberté. Il sait lui-même qu'elle est innocente. C'est une victime, c'est ce qu'il a dit.
À quelques pas de la prison, des associations de défense des droits humains et des partis politiques se sont réunis pour demander la remise en liberté de Mary Jane Veloso. Pour eux, un seul responsable, le système économique et politique du pays. À cause d'un manque d'opportunités financières, beaucoup de Philippins partent travailler ailleurs et sont vulnérables au recrutement illégal et au trafic d'êtres humains. Lisa Maza est militante anti-pauvreté et candidate au Sénat.
On lui avait promis un travail légal, comme travailleuse domestique. Mais elle ne savait pas qu'elle finirait dans un réseau de trafic de drogue. Aussi longtemps que la pauvreté existera ici, les Philippins n'arrêteront pas de quitter le pays.
En attendant de savoir si Mary Jane Veloso retrouvera sa liberté, ses recruteurs, eux, ont été reconnus coupables en 2020 et condamnés à la prison à perpétuité. Némolocoque James, Manille, RFI.
C'est un rapport riche d'instructions sur la biodiversité.
Aboutissement d'un travail de 3 ans, il a mobilisé pas moins d'une centaine d'experts venant d'une quarantaine de pays. Le rapport de l'IPBES est à la biodiversité, ce que le GIEC est au climat. Il a centré son travail sur les changements transformatifs, en clair sur l'ampleur de l'effort à fournir pour tenir les objectifs de protection de la biodiversité et du vivant. Quels sont les moyens à mettre en œuvre, face à quel blocage ? Simon Rosé, bonjour.
Bonjour.
La conclusion est sans appel. Il ne faudra pas moins d'une révolution pour y parvenir, mais cela s'est déjà vu dans un temps pas si lointain.
Et oui, c'est le paradoxe. La communauté internationale s'est elle-même fixée des objectifs de protection de la nature, mais visiblement sans bien appréhender les efforts et les transformations à mener pour pouvoir les tenir. Cela impliquerait en effet des changements radicaux de nos sociétés et économies. De tels bouleversements ont déjà eu lieu. La révolution industrielle en est un exemple. Économie, gouvernance, valeurs morales ont été affectées. C'est un chamboulement du même ordre de grandeur qu'il faudra mener à bien pour préserver les écosystèmes de la planète. Les initiatives de protection actuelles ont certes des effets positifs, mais sont insuffisantes pour inverser la tendance de la perte du vivant. Ce rapport revient donc tout d'abord sur les causes de l'échec actuel. La déconnexion et le rapport de domination à la nature, les inégalités économiques, le court-termisme et le profit individuel en sont les moteurs principaux. Pour y remédier, 5 stratégies sont présentées. Transformation des systèmes économiques, transformation des valeurs morales pour repenser la relation homme-nature. On pourrait craindre le vœu pieux, le yaka faucon, mais ce rapport s'appuie sur environ 7000 références scientifiques, des exemples de réussite de par le monde qui en font plutôt un mode d'emploi. Ne reste plus qu'à décider de l'utiliser ou pas.
Merci Simon Rosé. Un mot encore avant de vous repasser la main, Charlotte, c'est une dernière minute. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes, rendant en définitive sa condamnation à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence. C'est une sanction inédite pour un ancien chef de l'État en France.
Et Nicolas Sarkozy lui a constamment rejeté les accusations à son encontre. On y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
C'est une institution sanitaire en Haïti. L'hôpital Bernard Meuse de Port-au-Prince, parti en fumée, incendié par des membres des gangs armés. C'était dans la nuit de lundi à mercredi. Cet établissement privé, notamment connu pour disposer de technologies d'imagerie médicale, pour son expertise en traumatologie et en neurochirurgie. Il n'y a pas de victimes, mais de gros dégâts matériels. L'association médicale haïtienne a exprimé son indignation. Correspondance à Port-au-Prince. Prince Peterson Luxama.
Hôpital de référence, Bernard Meuse était l'un des rares centres médicaux encore en fonction dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Mais il n'a pas été épargné des exactions des gangs de la coalition Vive Ensemble. Trop, c'en est trop, s'indigne l'association médicale haïtienne, dont Dr Ardouin Lucharles est le secrétaire général.
Association médicale haïtienne.
Nous, membres de l'association médicale haïtienne, ne pouvons plus supporter cette situation. Elle est terrible pour la population. Un pays ne peut pas fonctionner de cette manière. C'est comme si Haïti était livré à lui-même sans autorité.
C'est comme si pays a pas gain autorité là-dedans.
Les dégâts causés par les bandits sont considérables. Les quatre salles d'opération, le laboratoire, les deux scanners, le bloc opératoire et l'administration sont tous partis en fumée. Des matériels rares, uniques en Haïti, dont dispose seulement Bernard Meuse, ont été détruits ou vandalisés. Face à cette situation hors de contrôle, l'association médicale haïtienne appelle l'État haïtien à mettre en œuvre des solutions urgentes.
Nous demandons à l'État de prendre en charge les institutions qui sont encore fonctionnelles, qu'il s'agisse des institutions sanitaires ou administratives, le temps n'est plus aux promesses illusoires.
L'attaque contre cet hôpital constitue un coup dur pour le système sanitaire haïtien, déjà en lambeaux, avec la fermeture forcée de plusieurs centres hospitaliers de la capitale. Des milliers de vies sont désormais en péril et l'accès aux soins devient encore plus difficile pour la population. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Et le sort de cet hôpital de Port-au-Prince, également dans votre revue de presse, Abla Jounaïdi, le sort de l'hôpital évoqué dans le journal Le Nouvelliste en particulier.
Oui, pour notre confrère Franz Duval, c'est là un remake de ce qui s'est déjà produit contre une trentaine de centres de santé et éléments de la chaîne de soins de la région de Port-au-Prince. En face, des autorités dépassées et impuissantes pour le directeur du quotidien haïtien qui déplore une destruction systématique de la région métropolitaine, quartier par quartier, comme cela se passe depuis le 1er juin 2021. Une destruction qui semble être sans fin.
Votre revue de presse des Amériques nous emmène aux États-Unis où Luigi Mangione, déjà inculpé pour meurtre du patron d'United Healthcare, il est accusé désormais de terrorisme.
Conclusion logique, selon le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, le meurtrier présumé ayant eu pour objectif, je cite, de choquer, d'attirer l'attention et d'intimider. Pour cela, il risque une peine maximale de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, souligne le Wall Street Journal. Ce dernier revient longuement sur le contexte de cette affaire qui captive la nation, selon le quotidien, en particulier parce que le jeune homme qui vivait avec les séquelles d'une opération au dos était issu d'une grande famille de Baltimore, bien sous tout rapport. La théorie des enquêteurs, précise le Los Angeles Times, c'est que Mangione, un diplômé en informatique de l'Ivy League, issu d'une famille importante du Maryland, a été poussé par la colère contre le système de santé américain. Il portait sur lui une lettre manuscrite qualifiant les compagnies d'assurance maladie de parasites. À l'appui de l'accusation de terrorisme, le New York Post rapporte les propos de la chef de la police de New York qui s'inquiète du climat de menace dans sa ville. Des gens ont placardé de façon macabre des affiches menaçant d'autres PDG. Ce sont là les menaces d'une foule violente et sans foi ni loi, selon Jessica Tisch. Un déferlement de haine en ligne a aussi incité la police à avertir qu'il pourrait y avoir une menace élevée, précise de son côté le Los Angeles Times.
On part maintenant au Canada, où le gouvernement Trudeau continue de vaciller.
Et les démissions s'enchaînent. Dernière en date, celle de Chrystia Freeland, sa numéro 2. Selon le Globe and Mail, elle n'acceptait pas de se voir proposer de nouvelles fonctions de ministre des Finances, sans aucune autorité statutaire pour traiter avec la nouvelle administration Trump, une rétrogradation à son avis. Le journal de Montréal, dans son éditorial, ne se montre pas tendre. Congédier Chrystia Freeland un vendredi pour lui demander d'endosser un déficit de 62 milliards de dollars le lundi pour la remplacer quelques jours plus tard serait la preuve de l'arrogance de Justin Trudeau. Après cette humiliation faite à Madame Freeland, qui au sein du Parti libéral voudra offrir sa loyauté aveugle au Premier ministre, fait mine de s'interroger le quotidien. L'épisode relance les appels à démissionner du côté de l'hémicycle où le Premier ministre est en minorité, à commencer par son principal opposant, Pierre Poilievre. Il a critiqué à nouveau la faiblesse de Justin Trudeau et réitéré son appel à des élections immédiates. Selon le journal Le Devoir, certains députés gardent le silence dans l'espoir de faire partie d'un nouveau gouvernement. Des rumeurs laissent entendre en effet qu'un remaniement ministériel pourrait avoir lieu prochainement afin de pourvoir les postes vacants, selon ce même journal. Le Premier ministre a annulé toutes ses entrevues de fin d'année prévues avec les médias. C'est ce qu'a confirmé son bureau hier soir.
Allez, on retourne en Haïti où la presse fait le bilan de cette année 2024. On l'a dit, faite de violence, mais pas seulement.
Oui, car heureusement, il y a les femmes. Selon le journal, leurs actions ne font pas toujours la une des médias, souligne le National. À l'image de Francesca Policarpe, une des plus courageuses professionnelles qui s'est distinguée dans la crise par son engagement à garder en vie et fonctionnel l'un des plus importants établissements de formation dans la capitale haïtienne, le lycée Marie-Jeanne. Le journal met à l'honneur des figures féminines qui ont marqué l'année, parmi elles Régine Abraham, l'unique femme au sein du conseil présidentiel, la youtubeuse Hugueline Jérôme avec ses entretiens de qualité avec des personnalités de la capitale et des artistes, bien sûr, comment ne pas évoquer la diva Rachel Guillaume qui, selon le journal, s'est plus que jamais confirmée durant l'année 2024 comme une valeur sûre.
Et le National fait une place aux espoirs aussi comme Rumi Arc, 18 ans seulement, la voix montante de la musique haïtienne.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Haïti, on y reste avec ces relations difficiles avec sa voisine, la République dominicaine. Les deux pays se partagent l'île d'Hispaniola. Leurs relations ont toujours été complexes et elles se sont franchement crispées avec le projet de construction, la construction d'un mur par les autorités dominicaines sur la frontière commune qui a été fermée. Et depuis octobre, la République dominicaine a aussi commencé à expulser en masse les migrants haïtiens. Comment en est-on arrivé là ? C'est un dossier signé Christophe Pagey.
Pour comprendre à la fois la méfiance qui perdure de chaque côté de la frontière et la migration haïtienne vers la République dominicaine où habitent 500 000 Haïtiens, il faut faire un peu d'histoire. Jean-Michel Carrois, journaliste et correspondant sur l'île depuis plus de 35 ans.
Haïti a occupé la République dominicaine pendant 22 ans au 19e siècle. La République dominicaine est un pays qui a eu deux indépendances. Une indépendance contre le colonisateur espagnol et une indépendance contre l'envahisseur haïtien. Et pendant toute une période, jusqu'au milieu du siècle dernier, l'économie était plus développée en Haïti qu'en République dominicaine. Donc le basculement est assez récent. C'est au cours des 30 dernières années que le décollage économique du côté dominicain a creusé l'écart alors que la crise s'approfondissait en Haïti, ce qui évidemment provoque une poussée migratoire depuis Haïti vers la République dominicaine.
De fait, nombre d'Haïtiens tentent quotidiennement de franchir la frontière. En octobre dernier, le président dominicain Luis Abinader a annoncé qu'il lançait une grande opération d'expulsion. Objectif, ramener de l'autre côté de la frontière 10 000 Haïtiens par semaine. Christian Giraud, chercheur au CNRS.
Faire du chiffre, c'est effectivement pour satisfaire apparemment des groupes nationalistes complètement xénophobes. Il faut savoir aussi que ces gens-là qui sont expulsés vont revenir un peu plus tard. Parce que ces gens-là, parmi ces gens-là, il y en a qui ont peut-être du travail déjà assuré en République dominicaine ou qui connaissent suffisamment de gens pour les aider à revenir. Donc c'est faire du chiffre pour contenter des gens. Et c'est tout à fait inhumain. Il faut savoir aussi que ça ne plaît pas nécessairement aux employeurs. Parmi les gens qui sont déportés, il y a des gens qui travaillent sur des chantiers, par exemple. De même, à la campagne, si ces gens étaient des ramasseurs travaillés dans les domaines rizicoles, les agriculteurs qui utilisent cette main-d'œuvre-là pour ramasser le riz ne sont pas contents non plus.
Ces entrepreneurs demandent depuis longtemps des régularisations de la main-d'œuvre haïtienne. D'autant qu'en 2013, la nationalité dominicaine a été retirée à plusieurs dizaines de milliers de descendants de migrants haïtiens. Certains font partie des personnes expulsées aujourd'hui. Avant d'être élu, le président dominicain Luis Abinader était favorable à leur régularisation. Mais l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse et l'accélération de l'instabilité dans le pays a tout changé. Et la presse dominicaine, qui suit de près la situation chez son voisin, a créé une angoisse dans la population dominicaine. D'autant que cette presse est souvent à charge.
Dans la presse, il y a des éditoriaux, des commentaires qui sont très négatifs par rapport aux Haïtiens. Des propagandistes peuvent revenir sur le caractère guerrier de la République d'Haïti dans ses premières décennies, sur des traits culturels haïtiens, à savoir la pratique du vaudou, Mais là, vous voyez, c'est utilisé par des propagandistes xénophobes ou nationalistes.
Pour autant, cette question du racisme agitée par quelques médias et petits partis xénophobes qui ont une certaine influence auprès du président n'a pas le même écho dans la population. Jean-Michel Carrois.
En République dominicaine, la majorité est mulâtre. Mais comme on dit en République dominicaine, la plupart des dominicains ont le noir derrière l'oreille. Et au niveau des quartiers populaires, la cohabitation se passe bien, y compris on a assisté dans cette période d'accélération des opérations d'expulsion massive, on a vu des Dominicains prendre la défense, y compris agresser les agents de migration ou les militaires qui venaient rafler des Haïtiens en disant « non, c'est mon voisin, je le connais et vous n'allez pas l'emmener comme ça » ou des femmes dominicaines prenant des enfants haïtiens qui avaient été séparés de leurs parents lors de ces rafles. Dans le discours officiel, dans les médias, il y a des propos racistes. Mais je crois que c'est beaucoup plus compliqué finalement que l'image qui est parfois projetée à l'extérieur.
En attendant, la frontière est toujours fermée, le mur en cours de construction. Des Haïtiens continuent d'essayer d'entrer dans le pays alors que les expulsions se poursuivent, même si elles ont baissé en intensité. Et les deux gouvernements semblent avoir du mal à ne serait-ce que dialoguer. Jean-Michel Carrois.
Quelle est la position de l'exécutif haïtien aujourd'hui? C'est très difficile de le savoir, parce que d'une part, il n'y a pas une seule voix. Le discours de Voltaire n'est pas le même que celui d'autres membres du Conseil présidentiel transitoire. Et en République dominicaine, il y a une espèce de surenchère, en tout cas au niveau médiatique, au niveau politique de certains petits partis qui influencent l'exécutif. Mais je pense que tout ça va et vient et que, en fait, tant qu'il n'y aura pas une amélioration sensible de la sécurité en Haïti, la question sera posée. De ce point de vue-là, la République dominicaine ne peut que en appeler à la communauté internationale, appels qui n'ont pas eu beaucoup d'écho jusqu'à présent.
Le Premier ministre haïtien a récemment demandé au nouveau ministre des Affaires étrangères de renouer le dialogue avec la République dominicaine, ce que Luis Abinader a salué, tout en prévenant que les expulsions se poursuivraient.
Un dossier signé Christophe Paget, presque 9h22 à Caracas.
RFI. La radio del mundo.
Le Venezuela où le bras de fer continue entre le président officiellement réélu Nicolas Maduro mais non reconnu par de nombreux pays dont les États-Unis et l'opposition qui revendique la victoire aux dernières élections de juillet. Cette situation de blocage n'est pas favorable bien sûr au retour de millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays depuis un peu plus de 10 ans, depuis la crise économique catastrophique de 2012 notamment. Ils sont près de 8 millions à l'étranger dont plus d'1,5 million au Pérou, c'est la principale terre d'accueil. Loin des yeux, mais pas loin du cœur. À Lima, Martin Chabal.
Au 6e étage d'un immeuble d'un quartier huppé de Lima, dans un petit bureau, un gigantesque drapeau vénézuélien trône à côté de celui du Pérou. Nourish Morin est vénézuélienne. Elle est arrivée il y a maintenant 6 ans. Elle est vice-présidente de Veneactiva, une organisation non gouvernementale qui vient en aide aux Vénézuéliens en exil au Pérou, notamment pour les démarches administratives.
Nous avons fondé Veneactiva avec 3 lignes claires. La première, c'est pour la protection, la régularisation de la situation dans le pays, la protection devant la loi et pour la santé. La deuxième, c'est pour l'intégration, autant socio-économique que culturelle. Et enfin, la dernière, c'est pour la participation à la vie du pays en tant que citoyen à part entière. Pouvoir participer à la démocratie pendant les élections et choisir les dirigeants, locaux comme nationaux.
Et la situation se complique depuis la pandémie de Covid-19 et l'instabilité politique au Pérou. Veneactiva vient donc remplacer les politiques publiques pour les réfugiés vénézuéliens et prend en charge ceux qui en ont besoin. Maria Andrinas, vénézuélienne de 27 ans, est venue aujourd'hui dans le petit bureau de l'ONG pour entamer les démarches pour son diplôme universitaire.
Veneactiva nous soutient beaucoup pour pouvoir légaliser nos diplômes universitaires, par exemple. J'espère que ça fonctionnera pour que ma vie s'améliore et que je puisse apporter ce que je sais au Pérou.
Même après 6 ans passés au Pérou, la situation reste pesante. Maria espère enfin pouvoir travailler comme éducatrice de jeunes jeunes enfants après quelques années compliquées.
J'ai commencé ici avec des petits boulots informels. J'ai d'abord été serveuse, puis aide cuisinière, aide à domicile aussi. Mais j'espère que je vais avoir maintenant l'opportunité d'être professeure.
Une précarité et un sentiment d'éloignement de son pays encore plus pesant quand viennent les fêtes de Noël. Certaines associations innovent pour recharger les batteries de ces réfugiés vénézuéliens. En coopération avec l'Organisation internationale pour les migrations de l'ONU, l'un des théâtres de Lima organise un concert de Noël aux sonorités péruviennes et vénézuéliennes. Un temps suspendu pour José Verdú, qui a assisté au concert avec un grand sourire de bout en bout.
Nos sentimos en casa, este tipo de música.
Là, je me sens à la maison. Ce type de musique, c'est vraiment ce qui nous définit, ce qui nous unit. Et ce rythme nous rappelle tant de souvenirs. Je ne saurais même pas expliquer ce sentiment que j'ai avec cette musique.
Pendant 2 heures, le rythme n'a cessé de s'emballer jusqu'à ce que tout le public se mette debout pour danser et taper dans les mains. Bien que pour José Verdú, au téléphone avec sa tante une bonne partie du concert, la période de Noël reste un moment difficile.
Elle me manque terriblement. C'est l'une de mes tantes les plus proches et avec la distance, il y a forcément un peu de mélancolie. C'est elle qui disait « J'ai fait la dinde, j'ai cuisiné le poulet, j'ai pris des fruits » et on se réunissait. « Apporte les pommes, prends les raisins » et après on faisait un grand repas. Et maintenant, partager tout ça à distance, ça fait un vide. C'est pas pareil.
L'Organisation internationale pour la migration voit ce concert comme indispensable pour se sentir bien dans son pays d'accueil. Leslie Leon est la responsable de la communication de l'OIM Pérou. Voir tant de joie parmi les spectateurs lui donne envie d'aller plus loin.
Je crois que l'une de nos missions, c'est de construire des ponts, aller au-delà de l'aide humanitaire immédiate et de voir plus large avec des choses qui sont durables, fortes. Et ici, c'est une preuve que ça fonctionne, qu'on a besoin de la culture, de l'art et de ses émotions.
Une vraie pause pour ces réfugiés vénézuéliens qui passeront Noël avec des proches à distance. Martin Chabal, Lima, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
En cette journée internationale des migrants que vous marquez également à la première, Benoît Ferrand, pour le journal des Caraïbes, c'est l'occasion cette journée pour la CIMAD Guadeloupe de dénoncer, je cite, des pratiques abusives et des expulsions systématiques.
Notamment vis-à-vis des Haïtiens en situation irrégulière, le comité intermouvement auprès des évacués, en résumé, accuse la préfecture de la Guadeloupe de faire du zèle. Peggy Robert.
En l'espace d'une année, 50 personnes ont été expulsées de la Guadeloupe vers Haïti. Pour la CIMAD, ces chiffres montrent les effets du régime dérogatoire outre-mer, régime qui permet des expulsions rapides, souvent sans contrôle des juges. Pour preuve, des femmes, des maris, des pères, des fils rapportent souvent ne pas voir rentrer leurs proches après le travail et sont stupéfaits d'apprendre que ce proche est déjà en Haïti. Quant aux conditions de rétention, la CIMAD dénonce depuis plusieurs années déjà, le fait qu'il n'y a aucune intimité pour les femmes, la présence d'un médecin 3 fois par semaine n'est selon la CIMAD que théorique. On comprend mieux pourquoi le thème retenu cette année pour cette journée internationale des migrants est l'accès à la santé.
Un tout autre sujet, ce récent rapport de la Cour des comptes qui épingle, comme on dit, l'Université de la Guyane. Anthony Hilaire.
Le rapport de la Cour des comptes met en exergue de nombreux dysfonctionnements au sein de l'Université de Guyane. Il évoque l'absence de critères objectifs pour décider de l'ouverture ou de la fermeture des formations, ce qui pénalise la mise en adéquation de l'offre avec les besoins du territoire. Il est aussi question de la mise en place d'une stratégie pour soutenir les étudiants. L'augmentation de près de 40% du nombre d'entre eux sollicitant une aide sociale souligne l'importance des besoins en la matière. La gestion financière et comptable de l'établissement manquerait, elle, de rigueur. La Cour des comptes parle d'un contrôle insuffisant de la part du rectorat, notamment le contrôle budgétaire de l'université, qualifié de lacunaire. Le rapport précise qu'il est impératif que le rectorat y remédie. Un bon point tout de même, le rapport juge de bonne qualité la recherche et la production scientifique de l'université, même s'il reste des marges de progrès significatives. Notez enfin que l'unique université française du continent sud-américain, bien que coopérant avec les universités du plateau des Guyanes, pâtit du manque de liaison terrestre, ferroviaire ou aérienne pour être en capacité d'attirer de nouveaux publics. Mais ça, ce n'est pas que l'université qui en souffre, mais bien l'ensemble de notre territoire.
Bon après-midi, Charlotte. À demain.
Merci à vous, Benoît Ferrand. Et on retrouvera tous nos confrères de La Première un peu plus tard à 18h10, heure de Paris, émission spéciale commune donc sur La Première et RFI consacrée à la situation à Mayotte après le passage du cyclone. Cette dernière information, on l'évoquait tout à l'heure, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi déposé par l'ancien président Nicolas Sarkozy. Donc sa peine est confirmée. Peine d'un an ferme sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence. Et cela dans l'affaire dite des écoutes. À suivre tout de suite de vive voix, on vous retrouve Chantal Leroux. Merci beaucoup à Vincent Biteau à la réalisation et à demain.